France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. À peine le président ukrainien a-t-il soulevé hier soir l'éventualité d'un échange de territoires occupés entre Kiev et Moscou dans le cadre de négociations de paix que l'idée a été balayée ce matin par le Kremlin. Nous serons en direct de Moscou dès le début de ce journal. En revanche, la Russie et les États-Unis font valoir leur bonne entente, en particulier après un échange réussi de prisonniers, de quoi laisser présager deux possibles discussions bilatérales entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Le cas échéant, quelle sera la place laissée aux Européens? Ont-ils les moyens et seulement l'envie d'avancer unis sur toutes ces questions liées à la sécurité? On posera la question à notre invité aujourd'hui, le chercheur Sylvain Kahn. Quand Emmanuel Macron et Narendra Modi affichent leur proximité, le président français est en visite depuis ce matin à Marseille avec le premier ministre indien, un ultra-nationaliste décrié par les défenseurs des droits humains pour sa dérive autocratique. Enfin, une guerre des chefs est-elle prévisible à droite entre les différents concurrents potentiels à la course l'Élysée pour 2027. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est déjà lancé dans la course à la présidence du parti Les Républicains. Se dirige-t-on vers un nouveau Yalta? Comprenez un scénario dans lequel Donald Trump et Vladimir Poutine décideraient seuls des nouvelles réalités en Europe sans consulter les premiers concernés, en l'occurrence l'Ukraine, dont le sort décidera aussi inévitablement de celui des 27 qui n'ont aucune garantie jusqu'à présent sur le fait d'être associés ou non à un éventuel règlement. Or, à quelques jours du troisième anniversaire sanglant de la guerre déclenchée par l'envahisseur russe, c'est justement pour redire leur soutien sans faille à Kiev que plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont prévu de se retrouver cet après-midi à Paris avec leur homologue ukrainien. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel sait bien que la survie de son pays dépendra de la décision de Washington de continuer ou non à le soutenir, il s'est dit ouvert hier à quelques concessions. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, dans un entretien au quotidien britannique The Guardian, le président ukrainien se dit prêt à un échange de territoire avec la Russie, une idée rejetée dès ce matin, Sylvain, par le Kremlin.
Oui, pour Moscou, c'est niet, hein, clairement. Pour le Kremlin, l'idée même d'un échange de territoire avec l'Ukraine est tout simplement inimaginable. Interrogé lors de son point presse quotidien ce matin, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été très clair.
C'est impossible. La Russie n'a jamais discuté et ne discutera jamais de l'échange de ces territoires. Bien entendu, les unités ukrainiennes seront expulsées de ce territoire. Toutes celles qui ne seront pas anéanties seront expulsées.
Voilà, à vrai dire, la réponse du Kremlin n'est pas une surprise. Un peu plus tôt dans la matinée, l'ancien président Dmitri Medvedev avait déjà jugé cette idée absurde. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, traitant même la déclaration de Volodymyr Zelensky par la dérision « Il contrôle un territoire d'un mètre sur deux à Koursk. Il fait des déclarations pour cacher l'ampleur du désastre. » Sur le papier, c'est vrai, les Russes ont beau jeu de souligner le déséquilibre qui préexiste à de telles négociations. Éventuellement, l'armée russe contrôle actuellement près de 20% du territoire ukrainien, près de 110 000 km², plus de 240 fois la taille de la superficie contrôlée par l'Ukraine en Russie, à peine 450 km² dans la région de Koursk. Et encore, faut-il rappeler que l'Ukraine ne contrôle que quelques zones rurales, la plus grande ville, Soudja, ne comptant que 6 000 habitants avant la guerre. Alors on peut toujours se dire que pour Moscou, malgré tout, la présence de l'armée ukrainienne sur son territoire est un problème. Il y a tout de même 120 000 déplacés, des habitants exaspérés par la situation, des milliers de personnes dont on est sans nouvelles dans les familles de la région de Koursk. Cela crée une situation tendue dans cette région, clairement, mais Moscou ne semble pas s'en soucier énormément.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors le président ukrainien rencontrera vendredi le vice-président américain J.D. Vance à la conférence sur la sécurité organisée à Munich et au cours de laquelle les États-Unis pourraient présenter un plan de paix qui s'annonce a priori assez largement favorable à Moscou. Et puis en amont de cette conférence, les chancelleries du vieux continent, plus exactement la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, mais aussi le Royaume-Uni se retrouvent eux cet après-midi à Paris pour afficher leur unité. Jusqu'à quel point l'Europe avance-t-elle justement unie sur ces questions de sécurité? Est-ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est susceptible d'encourager l'UE à resserrer les rangs sur ces questions? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Sylvain Kahn, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste des questions européennes et auteur notamment d'un ouvrage intitulé « L'Europe face à l'Ukraine » publié l'an dernier aux presses universitaires de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Parmi les pays représentés à la réunion d'aujourd'hui, un en particulier ne cesse de se distinguer pour le volontarisme de sa politique de défense depuis l'invasion russe en Ukraine, c'est la Pologne. Ce lundi encore, son Premier ministre annonçait un plan d'investissement de 155 milliards d'euros, en grande partie consacré aux questions de sécurité. Le pays ambitionne aujourd'hui de devenir la première armée terrestre d'Europe d'ici 2035. Est-ce que la Pologne est aujourd'hui à l'avant-poste de l'effort militaire européen?
On peut dire ça, hein. On peut dire qu'effectivement la Pologne est le pays qui met le plus l'accent sur ce qu'on peut appeler rapidement un réarmement. Il n'est pas le seul, hein. Il se donne pour objectif en particulier d'avoir une armée mobilisable de 300 000 soldats. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore la France qui a la plus grande, disons, masse capacitaire avec 200 000 soldats mobilisables. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, la Pologne, deuxième argument, est le pays qui, aujourd'hui, approche les dépenses militaires dans son budget pour un montant de 4% de son PIB, ce qui fait de lui le premier ex aequo ou le deuxième avec la Grèce, si on prend ce critère. Donc ça, c'est une chose, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais pour autant, qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que ça nous ne dit pas sur la mobilisation, disons-le comme ça, politique et également de la société polonaise quant à la défense de l'Ukraine? Parce qu'une chose est le réarmement parce que tel ou tel pays se sent potentiellement très menacé par une éventuelle agression russe, si vous voulez. Et une autre chose est, dans l'état actuel, jusqu'à quel point aider, augmenter, on va le dire comme ça, l'effort, l'aide militaire à l'Ukraine. Ça, c'est un autre sujet. Il faut bien distinguer les deux.
Ce qui explique d'ailleurs peut-être en partie aussi cette ligne de fracture importante entre pays européens, puisque Varsovie reste assez classiquement attachée au cadre de l'OTAN, quand par exemple Paris met en avant la perspective d'une autonomie stratégique de l'Europe.
Alors, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement, on va dire, un clivage, en tous les cas, une distinction ou une diversité classique et traditionnelle, qu'on pourrait schématiser de la manière suivante. La France d'un côté et tous les autres atlantistes au point de considérer que, hors de l'OTAN, point de défense européenne. Voilà. De ce point de vue-là, la Pologne est certes très atlantiste, comme l'Estonie, mais finalement pas plus que l'Allemagne ou que l'Espagne, voyez-vous. Donc cette ligne-là, elle est en train de bouger. Alors quand je dis qu'elle est en train de bouger, je ne sais pas jusqu'à quel point elle bougera. Elle bouge lentement, notamment depuis l'arrivée de Trump. Voilà. Et donc, j'en veux pour signe, c'est un signe léger, à savoir que fin janvier, lorsque les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis, eh bien, des pays traditionnellement dits frugaux, comme en particulier la Suède et la Finlande, qui viennent de rejoindre l'OTAN, hein, ce qui est quand même pas rien, puisque la Suède était sur un statut de pays neutre depuis 250 ans, on dit, peut-être que maintenant, en effet, il faudrait envisager de refaire un grand emprunt européen, comme on a fait au moment du Covid, pour le réarmement de l'Europe. Voilà. Donc il y a un peu cette idée que maintenant que Trump est arrivé et qu'il est, extrêmement brutal et, disons-le, nationaliste et très peu soucieux de ses alliés européens, je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on peut dire que pour les États-Unis, les Européens ne sont plus des alliés. Donc cette ligne-là pourrait bouger un peu, c'est possible.
La Commission a effectivement évoqué l'hypothèse de sortir les dépenses de défense du calcul du déficit des pays membres et de la règle des 3%. Pour autant, Sylvain Kahn, on est encore très loin d'un nouvel emprunt commun pour la défense.
On en est très loin, mais on en est moins loin, si vous voulez, que fin 2024, puisque maintenant cette question commence à être évoquée, y compris par les pays qu'on appelle frugaux, c'est-à-dire les pays qui sont, du point de vue budgétaire, très orthodoxes, hein, qui ont des finances publiques dans la ligne des critères du traité de Maastricht, hein, qui eux commencent à dire, faut peut-être effectivement envisager cet emprunt. C'est pas encore fait, mais maintenant les discussions sont ouvertes. Il n'y a plus uniquement la France, l'Italie et l'Espagne et l'Estonie pour considérer que c'est une question à envisager. Donc il est probable que ça bouge. Mais vous voyez, ce qu'il faut bien voir, c'est que le gros problème,
en quelques mots,
deux collègues En quelques mots, j'ai deux collègues comme Pierre Haroche et Samuel Faure qui expliquent ça très bien. Le problème, c'est celui de la base industrielle et technique de défense. Ça veut dire, est-ce que oui ou non on peut avoir une industrie de défense à l'échelle européenne et non pas l'addition de 27 industries de défense. Le jour où on arrivera à faire ça, mais ça, ça va prendre 10 ou 15 ans, on ne peut pas le faire en 6 mois, à ce moment-là, on aura quelque chose qui ressemblera à un budget commun de la défense, à des dépenses communes de la défense, et à donc une vision commune et opérationnelle de l'armement européen.
Et en attendant, ça, la question reste posée. Donc, merci Sylvain Kahn, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Donc, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'Europe face à l'Ukraine, publié l'an dernier aux Presses universitaires de France. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Une certaine confusion régnait encore ce matin en Israël au lendemain de la déclaration belliciste de Benjamin Netanyahou.
Oui, semblant emboîter le pas à Donald Trump, le Premier ministre a menacé de rompre le cessez-le-feu en promettant la reprise d'intenses combats à Gaza si les otages n'étaient pas libérés, sans préciser toutefois s'ils devaient tous être relâchés, comme l'exige le président américain, ou s'il parlait là uniquement des trois dont la libération est effectivement prévue samedi selon l'accord conclu avec le Hamas. Toujours est-il que dans la foulée, l'armée a annoncé des renforts supplémentaires autour de l'enclave. En attendant, les opérations de l'État hébreu se poursuivent dans les camps de réfugiés palestiniens du nord de la Cisjordanie occupée, au point que les attaques contre les civils, la destruction systématique des habitations et des infrastructures vitales, comme les déplacements de population, sont tels que beaucoup y voient un continuum mortifère avec la situation à Gaza dévastée par 15 mois d'une guerre totale.
Et puis tandis que la trêve à Gaza ne tient qu'à un fil et que la Cisjordanie est quadrillée par l'armée israélienne, la répression de l'État hébreu s'étend jusqu'à Jérusalem-Est.
Et notamment dans le domaine de la culture. Deux libraires palestiniens y sont soupçonnés de troubles à l'ordre public. Arrêtés dimanche dernier, ils ont été présentés en début de semaine devant un juge. Ils sont désormais assignés à résidence jusqu'à la fin de la semaine. De son côté, la police a perquisitionné deux lieux et confisqué des centaines de livres sur la Palestine, provoquant notamment l'indignation du consulat général de France à Jérusalem. C'est un reportage signé Thibault Lefebvre.
Les deux libraires palestiniens ont comparu pieds et mains liés. La police israélienne leur reproche notamment d'avoir exposé un livre de coloriage intitulé « From the River to the Sea, du fleuve à la mer », référence aux frontières de la Palestine dite mandataire avant la création d'Israël. Devant le tribunal, une soixantaine de manifestants ont crié leur colère, dont l'écrivain américain Nathan Thrall, prix Pulitzer l'année dernière, et critique des mécaniques de domination israélienne contre les Palestiniens.
Quand la police est arrivée, ils ont pris tous les livres où était écrit le mot Palestine. Ils ont utilisé l'outil de traduction Google Translate sur leur téléphone. Et ensuite, ils ont arrêté les propriétaires.
Mahmoud et Ahmed Mouna tiennent la librairie Educational Bookshop depuis plus de 35 ans. Et selon leur avocat Nasser Odeh, jamais la pression des autorités israéliennes n'a été aussi forte.
C'est une étape de plus de la politique d'occupation israélienne à Jérusalem. Ils s'attaquent aux librairies, aux intellectuels et aux universitaires. C'est une stratégie pour faire taire les voix palestiniennes, nier notre histoire et nous empêcher de prendre conscience de notre héritage culturel.
Des diplomates français et de 8 autres pays ont assisté à l'audience et ils ont dénoncé à l'unisson une attaque contre la liberté d'expression.
Un reportage à Jérusalem de Thibault Lefebvre.
L'événement se voulait rassembleur, mais il aura surtout exposé les divisions.
Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle s'est achevé hier sans avoir réussi à bâtir un consensus international et pour cause, puisque face à un développement technologique présenté comme inéluctable, deux visions du monde continuent de s'affronter, avec d'un côté ceux qui en très grande majorité se prononcent pour une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA, et puis de l'autre, les États-Unis qui appellent à limiter la régulation, rejoint en cela d'ailleurs par le Royaume-Uni qui, face au péril Trump, qu'il s'agisse de ses intimidations et autres déclarations déroutantes quasi quotidiennes, a préféré faire pencher donc la balance vers Washington.
12h43 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
De son côté, le Premier ministre indien qui accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA est en visite depuis ce matin à Marseille avec Emmanuel Macron pour y vanter le partenariat commercial entre leurs deux pays. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour.
Alors si le très nationaliste Narendra Modi semble devenu aujourd'hui un partenaire incontournable, sa réputation pourtant désastreuse le précède. Il a d'ailleurs longtemps été jugé infréquentable.
Oui, 11 ans à la tête du pays, une emprise toujours plus grande. Au fil des années, les contre-pouvoirs ont été contestés, rabotés, à l'image de la Cour suprême indienne qui a dû accepter de voir l'exécutif s'immiscer dans la nomination des juges. À l'image de l'opposition aussi, plusieurs leaders inquiétés par des procédures judiciaires téléguidées selon eux, plusieurs leaders dont le le chef du gouvernement régional de Delhi il y a 2 ans. Les médias se plaignent également de campagnes d'intimidation. Après un documentaire critique, les locaux de la BBC ont été perquisitionnés. Plusieurs correspondants étrangers ont aussi été privés de visa de travail, autrement dit invités à partir. Une centralisation du pouvoir permise par les succès électoraux successifs, même si le dernier scrutin l'an dernier a offert une victoire en demi-teinte à Narendra Modi. Il continue de dérouler une rhétorique de l'homme fort, bercé de nationalisme hindou. Il a d'ailleurs banni l'anglais de ses grands discours au profit de l'hindi. Il a aussi soutenu la construction d'un temple et inauguré celui-ci sur l'emplacement d'une ancienne mosquée détruite. Il a refusé l'accès à la nationalité indienne aux réfugiés musulmans venus du Pakistan et de l'Afghanistan voisin. Un pouvoir identitaire bâti, selon lui, sur le refus du colonialisme des Moghols musulmans puis des Britanniques. Mais de tout cela, bien sûr, il ne sera pas question avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le président français ménage son allié indien à la tête du pays le plus peuplé du monde. Le président français soucieux de trouver des partenaires au sein du groupe des BRICS et de contrer ainsi le récit d'un affrontement entre bloc occidental et sud global.
Merci Frédéric Seize. Et je précise encore que Narendra Modi s'envolera cet après-midi pour les États-Unis où il espère bien renouer la relation de proximité qu'il entretenait déjà avec Donald Trump sous son premier mandat. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donc annoncé ce matin, très opportunément, sa candidature à la présidence du parti Les Républicains. Autrement dit, à quelques jours seulement d'un nouveau bureau politique prévu lundi prochain et au cours duquel sera fixée non seulement la date du prochain congrès, mais aussi l'élection du futur président. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
En entrant dans une concurrence directe donc avec Laurent Wauquiez, le ministre de l'Intérieur affiche clairement ses ambitions au risque de déclencher une nouvelle guerre des chefs à droite, dont l'enjeu, Stéphane, pourrait être évidemment une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2027.
Oui, derrière la présidence du parti Les Républicains, il y a potentiellement la sélection de celui qui pourrait porter les couleurs de la droite à la prochaine présidentielle. Laurent Wauquiez aspire à être celui-là. C'est pour cette raison qu'il a quitté en juin dernier la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour redevenir député. Son retour au Palais Bourbon était une manière de revenir dans le jeu politique national et d'affirmer ses ambitions. Et son plan de bataille passait par la reconquête de la présidence des Républicains qu'il avait abandonné en 2019 après l'échec de la liste de la droite aux élections européennes. Et Laurent Wauquiez ne semblait pas avoir de concurrent jusqu'à la soudaine apparition dans le paysage de Bruno Retailleau avec sa nomination au ministère de l'Intérieur. En quelques semaines, Bruno Retailleau a fait un bond en termes de notoriété dans l'opinion et il semble avoir acquis une certaine popularité, tout particulièrement au sein de l'électorat de droite. C'est ce qu'indiquait un sondage Opinionway il y a quelques jours, commandé par l'équipe Retailleau, où il recueille 93% de bonnes opinions chez les sympathisants LR, contre 71% seulement en faveur de Laurent Wauquiez. Ce sondage était destiné à préparer l'annonce de ce matin, alors que la droite s'apprête à désigner son nouveau chef, et ça préfigure effectivement un affrontement entre les deux hommes. L'équipe de Laurent Wauquiez accuse le camp d'en face de prendre la responsabilité de rouvrir une guerre des chef. Elle a sans doute raison, mais ça n'a rien de surprenant et surtout ça n'a rien de nouveau dans cette famille politique où c'est toujours de cette manière qu'elle sélectionne son champion. Il y eut l'affrontement Chirac-Giscard dans les années 70, puis Chirac-Balladur dans les années 90, Sarkozy de Villepin la décennie suivante, puis l'affrontement Fillon-Copé. C'est une sorte de règle. La droite fonctionne comme une bande, comme une meute, où il y a une bataille avant que le plus fort ne s'impose.
Merci Stéphane Robert.
Un nouveau texte à l'épreuve de l'hémicycle.
Comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité. L'examen d'une proposition de loi visant à durcir la justice des mineurs délinquants doit débuter ce soir à l'Assemblée. Ce texte reprend pour l'essentiel une série de mesures annoncées déjà au printemps dernier par un certain Gabriel Attal, alors Premier ministre, sauf que son adoption est loin d'être assurée. La gauche est vent debout et puis quand bien même le gouvernement y est favorable, le bloc central reste partagé. Certains ne cachent pas leur malaise. Enfin, en dehors de l'hémicycle, cette fois-ci dans le monde judiciaire, la philosophie répressive de ce texte provoque une levée de boucliers. Plus d'une dizaine de syndicats d'avocats et de la magistrature appellent d'ailleurs à des rassemblements en ce moment même. Enfin, un peu plus tôt dans l'après-midi, les députés s'apprêtent à rejeter une troisième et ultime motion de censure sur le budget de la sécurité sociale. Un vote décisif avant de clore donc cette page budgétaire 2025 dans une assemblée décidément morose et toujours guettée par la paralysie. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Marqué marquée par quelques éclaircies possibles des Pyrénées aux régions centrales, tandis que les nuages devraient l'emporter partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pomé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.